J'ai intitulé la présentation, comme vous le voyez, Réussite scolaire et réforme éducative. Pourquoi est-il si difficile de rendre nos systèmes éducatifs plus performants? Alors, c'est une question complexe, puis je n'ai pas véritablement de réponse. À la fin, vous allez voir, je glisse une petite hypothèse, mais c'est surtout pour ramener tout le problème qui m'apparaissait intéressant, et c'est l'angle d'attaque que j'ai choisi de prendre. Alors, je vais suivre le plan suivant et je vais quand même le suivre assez, de façon assez serrée. En introduction, je ferai une mise en contexte de cette question-là des réformes et pourquoi ça m'intéresse également et pourquoi c'est un objet d'intérêt aussi dans nos sociétés contemporaines. Je pense que très souvent de fois, quand on aborde la question de la réforme, on renvoie aussi à la pédagogie traditionnelle. J'ai déjà travaillé sur cette question-là de la pédagogie d'autrefois. Et je vais vous raconter une belle histoire, c'est-à-dire c'est mon interprétation de la naissance de la pédagogie. Alors, je vais tenter de vous expliquer d'où ça vient, comment la tradition pédagogique s'est constituée et quelles ont été les critiques qui ont été amenées contre cette tradition pédagogique-là. Et les critiques, la grosse période critique est autour du 20e siècle. Enfin, dans un troisième temps, je vais examiner un certain nombre de recherches sur l'enseignement efficace et les écoles efficaces. Il y a un corps de recherche extrêmement intéressant qui, malheureusement, je crois, n'est pas assez connu. Donc, en 3.1, j'examinerai des études sur ce qu'on appelle l'enseignement efficace. On pourra aussi voir quelles sont quelques caractéristiques d'un enseignement efficace à partir de ces études-là. Nous ajouterons à cela des études sur les écoles efficaces, parce que maintenant, je pense qu'il y a un développement intéressant dans les recherches sur les écoles efficaces. Et enfin, bien, en conclusion, on essaiera de revenir à notre question de départ pour tenter d'essayer de comprendre mais pourquoi, finalement, on a tant de difficultés à rendre nos systèmes plus performants. Alors, introduction et mise en contexte, nous assistons au phénomène de mondialisation des réformes éducatives. Et ça, c'est vraiment partout, que ce soit en Suisse, en France, ici, en Colombie-Britannique, en Ontario, dans d'autres États également. Je pense que ce phénomène-là de mondialisation fait en sorte que les États, les sociétés se surveillent, les pays se surveillent les uns les autres, et particulièrement lorsqu'on a des épreuves internationales et qu'on voit que les performances de nos étudiants sont moins bonnes que celles du voisin ou moins bonnes que plusieurs autres voisins. Alors, évidemment, on se tourne vers nos décideurs, nos hommes politiques, etc., et on voudrait que les critiques fusent et on voudrait améliorer le système éducatif. Donc, il y a une mondialisation, je pense, des réformes éducatives actuellement. Et plusieurs États sont donc en processus de réforme de leur système, et je crois que ces réformes-là sont animées par de bonnes intentions. Moi, je ne pense pas qu'il y a des gens qui sont animés de mauvaises intentions, qui veulent l'échec du plus grand nombre. Je ne pense pas. Je fais confiance sur ce plan-là. Je pense que les décideurs dans les gouvernements, la population en général, au fond, ce qu'on veut, c'est que nos élèves réussissent le mieux possible. Cependant, ces réformes éducatives-là sont souvent l'occasion de s'opposer. Quand on les met de l'avant, quand on construit notre discours sur la réforme, on s'oppose évidemment à ce qui se faisait avant, afin de mieux faire valoir ce qu'on veut amener comme changement. Et souvent de fois, cela se fait de façon manichéenne. Et manichéenne au sens où c'est comme on a tendance, je dirais, à déprécier ce qui se faisait avant pour mieux faire valoir les vertus ou les qualités de ce qu'on va proposer. Et là, dans ce processus-là qui revient, je dirais, presque toujours, une des conséquences, c'est qu'on réduit jusqu'à les caricatures et on engendre ainsi des polémiques qui sont extrêmement vives, voire même, c'est presque des guerres ouvertes. Alors, c'est ce que je crois qui se produit, notamment en Europe francophone, où je suis quand même allé à diverses reprises, On a des positions de la gauche qui sont très marquées contre la droite. On a, dit autrement, on peut avoir les progressistes qui s'opposent aux conservateurs. On peut avoir les disciplinaires qui s'opposent à ceux qu'on appelle très péjorativement les pédagogistes. On peut avoir les traditionalistes qui s'opposent aux constructivistes. Bref, on a des camps marqués, des camps opposés qui se livrent des débats, voire des guerres. Et je pense aussi qu'au Québec, c'est ce qui se produit avec le changement de paradigme pédagogique proposé par la réforme dès le départ. Il y avait une injonction qui nous demandait de passer du paradigme de l'enseignement au paradigme de l'apprentissage. On avait donc comme mise en forme deux positions, construit une opposition à partir de laquelle on voulait faire la promotion d'une nouvelle façon d'enseigner et, évidemment, en s'opposant à une autre façon d'enseigner, le paradigme de l'enseignement qu'on estimait comme étant un paradigme qu'il fallait dépasser ou éliminer. Donc, étant donné ce processus presque constant de proposition d'un changement et de critique de ce qui se faisait antérieurement sous forme de caricature, il devient extrêmement difficile de débattre à froid de ces questions, de la question des réformes. On est toujours pris dans une joute, dans une polémique et on n'en sort pas et finalement c'est comme si on tournait en rond. Alors, je pense qu'une des erreurs que l'on commet souvent, c'est de confondre les finalités d'un système et les moyens. Je pense que les finalités ou les grands buts d'un système, ça relève de l'opinion citoyenne. C'est-à-dire, on met les citoyens, on leur demande, ben finalement, quels seraient les buts que l'école devrait poursuivre chez nous. Et là, ben, on peut avoir toutes sortes de buts que l'école peut poursuivre. Nous avons choisi au Québec instruire, socialiser, qualifier. Bon, on pourrait en avoir d'autres. Ça m'apparaît raisonnable à certains égards. Mon propos n'est pas sur les finalités qui ont été choisies. Par contre, lorsqu'on met de l'avant un certain nombre de moyens pour atteindre ces finalités-là, c'est là où, je pense, qu'on interpelle l'expertise. C'est-à-dire que la recherche peut être convoquée, amenée à la table pour voir, au fond, si les moyens qui sont mis de l'avant pour atteindre ces finalités-là permettent d'atteindre, effectivement, ces finalités-là. Alors, mon point de vue, c'est que les réformes ne sont pas toutes bien fondées sur le plan de la recherche. Elles ne font pas nécessairement la promotion des meilleurs moyens pour atteindre des fins qu'on estime souhaitables et somme toute légitimes. Alors, le point de vue que j'aimerais prendre, je ne vais pas prendre le parti de la gauche, de la droite, des progressistes ou des traditionalistes, ce n'est pas ça. J'aimerais prendre le temps avec vous d'examiner, d'adopter la perspective du chercheur et d'examiner un certain nombre de recherches pour voir, ben finalement, est-ce qu'on a des résultats qui nous parlent à partir de la recherche. Donc, j'aurais comme objectif d'identifier un certain nombre de recherches qui tentent de répondre à la question suivante. Comment enseigne-t-on dans les écoles qui favorisent la réussite des élèves? Autrement dit, quelle pédagogie serait au service de la réussite de tous les élèves? La pédagogie d'autrefois. Pour bien comprendre la nature et les enjeux des débats actuels, il est cependant essentiel de situer certains aspects historiques de l'enseignement et de ce que j'appelle, moi, la constitution d'une tradition pédagogique. Et là, je vous raconte une belle histoire, je pense. C'est une histoire que j'ai inventée. Au fond, elle est pas. Ça ne veut pas dire qu'elle est vraie, mais elle est attirante. Alors, je pense qu'elle nous permet de nous faire une idée de ce que c'est la pédagogie traditionnelle, la tradition pédagogique, et on va placer ces concepts-là tranquillement. Alors, je vais y aller, comme je mentionnais, en trois moments. La naissance de la pédagogie, la constitution d'une tradition pédagogique et notre débat pédagogie nouvelle, pédagogie traditionnelle, qui est très fort tout au cours du 20e siècle. Donc, pour illustrer la naissance de la pédagogie, je vous montre deux images. Bon, c'est des images qui illustrent des scènes de classe du 17e siècle. Alors, j'ai trouvé ces images-là par hasard dans un ouvrage sur l'histoire de l'enseignement écrit par Parias. C'est en quatre volumes. Et c'est un très beau livre. Et finalement, à un moment donné, on s'attarde pas seulement au texte, on regarde les images aussi. Et là, j'ai eu comme une surprise à un moment donné de constater qu'à des endroits différents, et non pas côte à côte, là, je les ai mis côte à côte parce que là, je veux s'arranger, comme on dit, avec le gars des vues, là. Mais dans le livre, elles étaient à des endroits différents. Même, je pense qu'elles étaient dans des tombes différentes, là, ça fait plusieurs années, je m'en souviens pas trop. Sauf que ce que j'ai réalisé, c'est que c'était deux images du 17e siècle. Or, elles sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Alors, m'est venue l'idée, un peu comme des fois certains ont des illuminations plus nobles. Moi, c'était une illumination pédagogique que j'ai eue à ce moment-là. J'ai dit, voilà, dans l'image en noir et blanc, que j'appellerai l'image numéro 2, dans l'image 2, on assiste à la naissance de la pédagogie. Et dans l'image de couleur, l'image 1, il n'y a pas de pédagogie. Alors, c'est ça mon hypothèse. Je pense que la pédagogie apparaît dans l'image du numéro 2 et n'est pas présente dans l'image numéro 1. Alors, je m'explique. Quand on examine attentivement l'image numéro 1, par exemple, on voit un vieux maître avec une férule à la main qui reçoit un élève à son bureau. L'élève est tout piteux, il lui demande probablement de réciter sa leçon. On voit également, il n'y a pas nécessairement beaucoup d'autres enfants, il y en a peut-être une quinzaine en tout, une dizaine, douzaine, on ne sait pas trop. Et les enfants, pendant ce temps, font toutes sortes de choses en même temps. On en voit un à la droite en haut qui a un panier sur la tête qui va descendre l'escalier. On en voit un, par exemple, au fond de la salle complètement qui semble sortir par la fenêtre. Les enfants semblent d'âge assez variable, de sexe différent. Le local est dans un désordre incroyable. Cela peut se comprendre aussi à l'époque parce que le maître n'était pas véritablement bien rémunéré. Alors, son local devait servir probablement pour d'autres fonctions que seulement l'enseignement. Qu'est-ce qu'on peut voir à part ça? Souvent aussi, ces maîtres-là s'improvisaient maître d'école, au sens où quand tu sais lire, tu peux te déclarer maître d'école et montrer à lire. Donc, ce qu'on voit, c'est finalement une pièce dans un désordre. Moi, j'appelle ça un maître improvisé. Dans l'image de droite, l'image numéro 2, c'est tout autre univers qu'il s'agit. Ce n'est plus un local, c'est une classe. Une classe, c'est un local spécialisé qui n'a qu'un usage. On ne fait pas de commerce dans une classe, on enseigne et des élèves apprennent. Alors, c'est ce qu'on voit ici. On voit une classe où les élèves sont ordonnés, ils sont assis en rang d'oignon, comme on dit. Ils ont un livre ouvert de chacun à son livre, chacun à sa place. Chacun a son livre, et ils ont un livre, évidemment, parce que l'imprimerie a été inventée auparavant. Donc, c'est une grande innovation pédagogique de pouvoir dire « ouvrez votre livre à la page 14 ». Ça veut dire qu'on a un objet commun qui permet de faire une chose qui n'existait pas dans la première image, c'est-à-dire l'enseignement simultané. Donc, l'enseignement simultané est une invention et l'improvisation était l'enseignement plutôt individualisé dans l'image, dans la première image. C'est sûr que maintenant, on parle d'individualisation de l'enseignement comme étant une innovation, mais en réalité, ça a commencé, je dirais, à paraître individualisé, c'est-à-dire le maître reçoit les élèves à tour de rôle, alors que le changement a été de créer un enseignement simultané. On voit que c'est un local spécialisé aussi au sens où, au mur, nous avons une map monde. Probablement que dans des classes plus basses, il y aurait un alphabet, sans doute, comme on a dans toutes les classes du monde. Il y a des images saintes à gauche et à droite de la map monde, histoire de culpabiliser les enfants pour leur dire, les enfants qui ne se comportent pas bien, pour leur dire que si vous n'irez pas au ciel ou regardez Jésus en croix, la peine que vous lui faites, etc. Bref, on a aussi également trois professeurs en avant. Bon, ils sont d'une communauté religieuse, ce sont des frères des écoles chrétiennes, et les frères des écoles chrétiennes montraient aux novices comment enseigner. Donc, au 17e siècle, on assiste aux premières tentatives de formation des enseignants. Et cette formation-là, a été, je dirais, le contenu de la formation a été décrit dans un ouvrage qui s'appelle « La conduite des écoles chrétiennes » de Jean-Baptiste de La Salle. Tout était minutieusement consigné dans cet ouvrage, de sorte que les novices pouvaient apprendre à enseigner de la même façon que les anciens qui les ont précédés. Alors, si j'avais à opposer de façon forte ou contraster les deux, je dirais que la première image se caractérise par le désordre, la seconde image se caractérise par l'ordre. Qu'est-ce que la pédagogie? La pédagogie est un discours et une pratique d'ordre pour instruire et éduquer les élèves. Alors, si je vais plus loin et je reprends en mots ce qu'on a dit en phrase, on regarde ça écrit ici sur l'acétate qui suit. Donc, dans la première image, nous avons ce que nous pouvons appeler un enseignement au singulier. Il y a peu d'enfants, il n'y a pas véritablement de méthode au sens où c'est désorganisé et on a un maître qui s'est improvisé. Dans la seconde image, nous assistons à ce que j'appelle la naissance de la pédagogie. Pourquoi? Et j'y reviendrai un petit peu plus tout à l'heure. Parce qu'on a plus d'élèves. Pour moi, la pédagogie est associée au nombre d'élèves. À partir du moment où il y en a plus, on est obligé de changer notre façon de travailler. Alors, changer notre façon de travailler, cela veut dire s'inventer ou se construire une méthode. D'où va nous venir la méthode? La méthode, au fond, elle va nous venir de Dieu. Pourquoi elle nous vient de Dieu? Dieu est parfait, il a créé la nature, une nature parfaite, une nature ordonnée. On va utiliser la nature comme modèle pour s'inspirer, pour organiser notre enseignement. Notre méthode sera ordonnée en tout point. C'est un discours d'ordre. La pédagogie qui apparaît, la façon d'enseigner, se calque sur l'ordre qu'on observe. Et si vous avez l'occasion de lire Comenius, par exemple, chez les protestants, il nous disait « il faut suivre la nature, mais la nature est comme une horloge ». C'est quand même une bonne indication comme quoi la nature est ordonnée. Un autre auteur, je pense, c'est Ratitius, disait « tout ce qui est de Dieu est selon l'ordre ». Donc là aussi, on a une argumentation à l'effet que dans cet emplacement qu'est la classe, tout sera ordonné. Et là, on contrôle tout. Tous les éléments de la classe sont minutieusement organisés et ordonnés. Comme je mentionnais tout à l'heure, on contrôle le groupe, notamment par l'enseignement simultané. Le professeur voit tous ses élèves en même temps. On contrôle le temps. Quand on lit les traités de pédagogie de l'époque, le temps est minutieusement divisé en parties des 5 minutes, des 3 minutes, du matin jusqu'au soir. On contrôle l'espace, comme on a vu, chaque élève a une place, et là, il y a des places pour ceux qui sont plus avancés, des places pour ceux qui sont moins avancés, des places pour ceux qui sont plus riches, des places pour ceux qui sont plus pauvres et qui sentent mauvais. On a en arrière le banc d'infamie, où les élèves indisciplinés seront assis. Donc, on contrôle le groupe, le temps, l'espace. On contrôle également les déplacements. On va instaurer le système des rangs. Le rang est un déplacement ordonné de collectifs de personnes. Et là, je vous ai apporté de mon enfance, parce qu'on va dire que ça s'est rendu jusqu'à nous, de mon enfance, ici, c'est un instrument pédagogique génial qu'on appelle le frappoir ou le claquoir. Et on avait l'équivalent à l'époque aussi, un petit instrument qui faisait du bruit comme ça. Alors, je me rappelle quand j'étais jeune, disons, la cloche de la récréation sonnait, on déposait nos crayons, hein, et là, on se tenait droit en silence. La maîtresse ou le maître d'école, mais c'est souvent des maîtresses, faisait un coup. Là, on se mettait debout derrière notre bureau. Un autre coup, on allait se placer en rang dans le côté de la classe, il y avait de la place, du plus petit au plus grand, OK? C'était comme ça, c'était 2 par 2, du plus petit au plus grand, en silence. Un autre coup, et là, on sortait de façon ordonnée jusqu'à la cour de récréation où on jouait. L'autre cloche sonne, et là, qu'est-ce qui se passe? Les enseignants nous attendent un à côté de l'autre, disons, première année A, première année B, première année C, deuxième année A, deuxième année B, deuxième année C, et les élèves de chacune des classes se placent en rang du plus petit au plus grand face à leur professeur, Et là, la première année A entre au signal, et quand le dernier élève de la première année A passe vis-à-vis du premier élève de la première année B, là, la classe de la première année B suit, et ainsi de suite, comme ça, et on peut contrôler, ordonner le déplacement de masse. Ordonner le déplacement de masse de groupes importants d'élèves. On contrôlait également les postures. Il y a une façon de s'asseoir. Il y a une façon de tenir la plume. Il y a une façon de faire la prière. Quand on fait la prière, notamment, on s'assoit pas sur nos talons. Pourquoi on s'assoit pas sur nos talons? Parce que le visible est un signe de l'invisible. C'est-à-dire que si t'as pas une tenue qui est contrôlée, ça veut dire que peut-être, au fond, que t'es dominé par le malin, disons, étant toi. Alors, pour avoir une bonne tenue, c'est-à-dire pour être bien assis, bien droit pour la prière ou pour tenir la plume, etc. On va contrôler également les punitions, c'est-à-dire que maintenant, on va instaurer une échelle de punitions, des moins fortes jusqu'aux plus fortes. C'est sûr qu'on va battre les enfants, mais ce châtiment-là est la dernière étape d'une série de punitions graduées. De la même façon, on va ordonner les récompenses pour des plus petites choses jusqu'à des plus grandes récompenses. Le contrôle va aller au-delà, comme je mentionnais tout à l'heure, c'est que non seulement tous ces éléments-là seront contrôlés, mais ceux qui enseignent seront contrôlés également, au sens où ils seront formés. Donc, on peut pas parler à ce moment-là d'un maître professionnel nécessairement, mais on pourrait dire que c'est un maître artisan qui a été supervisé par un mentor, qu'il est formé. Alors, ces éléments-là se plaçant au 17e siècle vont, je dirais, se perpétuer au fil des siècles suivants. Et c'est ainsi qu'on va constituer une tradition pédagogique. Et cela, une tradition se constitue quand on répète, notamment. Et c'est répété, on refait les mêmes choses. Et dans ce sens-là, la formation des enseignants, mise de l'avant par les ordres religieux, a permis, justement, de créer cette tradition pédagogique-là. Les traités de pédagogie ont également permis de créer cette tradition au sens où ce qu'on demandait, les comportements qu'on demandait des enseignants, ils étaient consignés dans ces traités de pédagogie-là, dont je vous recommande la lecture, c'est suave et savoureux, c'est vraiment un plaisir. Je parlais également des communautés religieuses qui ont été aussi également des communautés qui se déplaçaient énormément. Les jésuites ont ouvert des collèges des jésuites partout sur la planète, en Chine, en Amérique du Sud, évidemment en Europe, en Nouvelle-France. On a ici, à la bibliothèque de l'Université Laval, les mêmes ouvrages pédagogiques qui étaient utilisés en France à ce moment-là. Donc, non seulement dans le temps, il y a une tradition qui se constitue, mais en même temps, dans l'espace, c'est-à-dire sur différents continents, il y a une façon plus ou moins uniforme et assez semblable de faire la classe. C'est ce que j'appelle la tradition pédagogique. Mais cette tradition pédagogique-là contient des erreurs, des défauts, des excès. Par exemple, les frères des écoles chrétiennes, pour eux, il était important on commençait par la lecture et par la suite, on montrait aux élèves à écrire, alors que maintenant, on peut faire les choses simultanément et ça ne semble pas poser véritablement de problème. Ou encore, on disait qu'il fallait apprendre le latin avant le français, alors que maintenant, on peut apprendre le français sans passer nécessairement par le latin. Cette pédagogie-là aussi contenait une forte dose d'autoritarisme. Évidemment, le maître était le seul maître à bord, c'est le cas de le dire, et il avait presque un pouvoir absolu sur ses élèves. Et il y a eu aussi un élément important qui est la Première Guerre mondiale qui a amené finalement beaucoup de gens à se préoccuper de l'éducation, parce qu'on s'est dit à ce moment-là, mais comment a-t-on pu produire un tel cataclysme, une telle horreur? Réponse que les gens se donnaient, c'est l'éducation. Il faut réformer l'éducation, il faut modifier ça du tout au tout. Donc, pendant tout le 20e siècle, Les critiques ont fusé de toutes parts à l'endroit de cette pédagogie-là. On a critiqué cette tradition pédagogique. Alors, que ce soit d'auteurs aussi différents que Neal, Montessori, Freinet, Fréré, Skinner, on ne peut pas dire que Skinner est très proche de Neal et de Summerhill, mais pourtant, sur le plan de leur critique de la tradition pédagogique, ils s'entendent, je crois. Alors, là, la tradition pédagogique est devenue la pédagogie traditionnelle. Il y a comme eu un renversement, si bien que là, on a comme fabriqué, on a construit un monstre à abattre. Alors, c'est devenu comme l'ennemi commun de toutes les pédagogies du 20e siècle, je dirais. On s'oppose à ce qu'on appelle la pédagogie traditionnelle. Et là, je vous renvoie à l'ouvrage, je pense, magistral de Kessler, qui s'appelle « La fonction éducative de l'école », dans lequel il analyse le débat pédagogie nouvelle et pédagogie traditionnelle. Ça date quand même des années 60, mais c'est il a fouillé, le monsieur Kessler. Alors, au fond, il illustre aussi ce débat manichéen-là et rhétorique, et je pense qu'il est l'équivalent du débat que l'on a de nos jours, c'est-à-dire à la pédagogie nouvelle, on associe toutes les vertus, à la pédagogie traditionnelle, on associe tous les défauts. Alors, la tradition pédagogique comportait cependant une certaine sagesse. Quand on va dans un ouvrage des Jésuites qui s'appelle « Le ratio dicendi et docendi », c'est-à-dire de la manière d'enseigner et d'apprendre, on nous disait quelque chose d'assez suave. On nous dit « L'esprit de l'enfant est comme un vase d'étroite embouchure ». Donc, il y a un col, je dirais, un peu étroit. Mais quand on écoute les auteurs de la pédagogie traditionnelle, cela est devenu « L'esprit de l'enfant est comme une cruche à remplir ». Il y a une énorme différence entre concevoir l'esprit de l'enfant comme un vase d'étroite embouchure et concevoir l'esprit de l'enfant comme une cruche à remplir. Dans un cas, il y a une forme de jugement, il y a une forme de sagesse, c'est-à-dire, si tu en donnes trop de contenu, à un moment donné, ça va déborder, c'est ça que ça veut dire, ce que les Jésuites nous disaient. Mais dans la polémique, dans la rhétorique qui s'est mise en place pour critiquer cette approche pédagogique-là, on a réduit, en quelque sorte, la finesse du discours des Jésuites pour en faire quelque chose d'un peu stupide, somme toute. De la même façon, je pense que c'est une idée intéressante de prendre davantage en compte les besoins et intérêts de l'enfant. Et lorsqu'on entend certains critiques de la pédagogie nouvelle, ils vont nous dire « Ah, les pédagogistes, pour eux, c'est l'enfant roi ». Je veux dire, dans les débats, que ce qu'on soit pédagogie nouvelle ou pro-pédagogie traditionnelle ou retour à l'ancienne pédagogie, il est extrêmement facile de tomber dans la caricature, soit de l'enfant roi ou soit de la cruche à remplir. Alors, notre but n'est pas de faire l'apologie de la pédagogie traditionnelle ni de la pédagogie nouvelle. Moi, je pense que c'est un débat mal engagé et plutôt pollué. Je pense qu'il faut reprendre l'analyse autrement et tenter de sortir, au fond, de ce cercle vicieux-là. Alors, on a fait le choix d'utiliser la recherche en enseignement comme base de réflexion, et c'est cela dont on va parler tout de suite dans cette partie-ci. Alors, on se rappelle, enfin, pour ceux qui sont peut-être un peu plus âgés, là, qui examinaient la littérature à ce moment-là, dans les années 60, des auteurs comme Bourdieu, Passeron, enfin, Coleman et nombre d'autres nous disaient, ben tout se joue en dehors de l'école. C'est-à-dire que c'est le milieu socio-économique qui est sans doute la variable la plus déterminante et que le maître joue presque un rôle insignifiant en ce qui concerne la réussite scolaire des élèves. Mais dans les années 70, on a commencé à faire des recherches sur l'enseignement, c'est-à-dire des recherches qui se déroulaient dans les classes. Et là, on a commencé à mettre en relation ce que fait, ou voir après ça, ce que pense l'enseignant avec la réussite scolaire des élèves. Et on s'est rendu compte que l'enseignant pouvait faire une différence, c'est-à-dire qu'à milieu socio-économique semblable, il pouvait y avoir des variations dans la réussite scolaire des élèves, et ceci peut-être de façon récurrente. Et on se rendait compte aussi, on analysait ça aussi, que dans des milieux socio-économiques comparables, il y a des écoles qui semblent produire de meilleurs effets sur l'apprentissage que d'autres. Donc, on s'est mis à parler d'un effet enseignant et d'un effet école. Et ceci pour les institutions de formation des maîtres, c'est pas banal, parce qu'au fond, ça dit qu'il y a quand même quelque chose à faire. Sinon, si tout se jouait complètement dans le milieu socio-économique, alors on a peut-être aussi bien tout de suite de fermer les facultés des sciences d'éducation. Alors, ici, ma thèse est la suivante. Plusieurs recherches empiriques en ce qui concerne l'enseignement efficace, plusieurs recherches empiriques montrent une efficacité supérieure des approches dites instructionnistes comparativement à celles centrées sur la découverte ou celles de nature plus constructiviste. Et ici, évidemment, c'est ici que je me fais habituellement un certain nombre d'ennemis. Mais qu'à cela ne tienne, je vais tenter de vous expliquer pourquoi, puis on discutera après. Ne vous fâchez pas trop vite. Mais l'époque n'est pas mienne au sens où je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont d'une orientation plus constructiviste ou qui favorisent des pédagogies par découverte, alors que ce que j'ai pu, en tout cas, examiner dans la recherche semble montrer de façon forte que des approches très structurées, fonctionnant du simple au complexe, sont associées à de meilleures performances des élèves. Mais examinons quelques cas. Alors, je pense que la plus belle étude, grosse étude en même temps, puis il y avait quand même une intention extrêmement intéressante à la base de cette étude-là, c'est le projet Follow Through. Elle est malheureusement ignorée, peu connue, oubliée, au fond, c'est une étude dont on ne parle plus. Alors, à la fin des années 60, on a voulu comparer l'efficacité d'une vingtaine d'approches pédagogiques auprès d'élèves provenant de quartiers défavorisés. Alors, on a mené une étude comparative longitudinale d'une dizaine d'années auprès de 70 000 élèves américains dans 180 écoles environ. Et ça portait sur les élèves de maternelle à troisième année du primaire. Alors, les promoteurs des approches, des différentes approches, recevaient des fonds pour implanter leur approche dans trois écoles dans lesquelles ils allaient implanter cette approche-là, oui. Et on jumelait ça à trois écoles comparables pour être considérées comme group control, pardon. Alors, on évaluait à la fin de la troisième année sur les trois dimensions, les apprentissages de base, les habiletés intellectuelles et l'estime et l'image de soi. Alors, je vous donne ici un exemple. Enfin, il y a mille résultats, mais je ne m'apesantirai pas sur ça. Simplement, vous donner une idée quand même. Ici, on mentionne non pas les 20, mais 9 approches pédagogiques. Là, je vais tenter. Ah, ben tiens, je vais utiliser la technologie. Alors, marche-tu ça? Ah non, c'est de l'autre bord. Bon, ça va mieux. Alors, ici, en bas, nous avons les modèles identifiés, Direct Instruction, Parent Education, Behavior Analysis, etc., jusqu'à ici, Open Education. Nous avons également, selon les couleurs, en bleu, les habiletés de base ont été mesurées, les récompensées, donc, les habiletés cognitives, qui renvoient notamment à la résolution de problèmes, et en blanc, les habiletés affectives, l'estime de soi, l'image de soi. Et là, ici, on a la performance de ces 9 modèles-là. Et le 0 signifie la valeur du groupe contrôle. Alors, ce qui est intéressant de constater ici, dans cette étude-là, c'est que le Direct Instruction, une approche qui utilise un curriculum extrêmement structuré et qui fonctionne de façon très, très précise, du simple au complexe, en donnant même des scripts de questions, questions, oui, aux enseignants, est associé aux meilleures performances selon les trois dimensions évaluées. Même la dimension socio-affective, et cela, c'est assez surprenant. Alors que ici, ben, je vais vous mettre à l'extrême droite, parce que Open Education, enfin, j'ai commencé un peu quand plus jeune, dans les années 70, c'était à la mode la pédagogie ouverte. Il y avait quand même une orientation pour développer les dimensions affectives aussi. On fonctionnait par projet. C'était une approche qui était emballante. Bon. Alors, mais contrairement aux attentes prévues, cette approche-là si emballante a donné de piètres résultats sur toutes les dimensions mesurées et qui plus est, sur une des dimensions importantes dont il visait le développement, c'est-à-dire l'estime et l'image de soi. Alors, on peut se poser la question, mais pourquoi l'estime de soi, finalement, est si basse dans ce cas-là, alors qu'on voulait travailler dessus, et que dans Direct Instruction, elle est si élevée, alors qu'on ne s'en occupait pas vraiment? Bien, une des réponses possibles, c'est que la réussite scolaire des élèves dans le cadre d'approches très structurées comme le Direct Instruction, a une espèce, d'effet collatéral, c'est au fond d'entraîner une meilleure image d'eux-mêmes de ces élèves-là. Alors, vous pourrez me dire, cette recherche-là, je pense, elle a commencé en 68 et elle a terminé en, bon, là, je ne sais plus, en 95, mais les résultats stables ont duré une dizaine d'années. Alors, vous pourriez me dire, ah, ben, c'est une seule recherche, finalement, c'est vieux, mais qu'à cela ne tienne, s'il y en avait une, ben, on pourrait dire, mais il y en a d'autres résultats de recherche qui semblent associés qui donnent des résultats assez convergents. Par exemple, le Wisconsin Policy Research Institute, dans son étude, confirmait aussi l'efficacité du Direct Instruction. Herman, dans son analyse comparative d'une vingtaine d'approches pédagogiques, confirmait également l'efficacité du Direct Instruction. Borman, dans l'étude dans laquelle il comparait 29 modèles à partir de 232 recherches, je crois, indiquait que classait au premier rang le Direct Instruction et au second rang le Success for All de Robert Slavin, qui est une approche très structurée également, mais qui met en scène également d'autres aspects comme les relations avec les parents et avec les pères, le travail plus coopératif, là. Bon, c'est pour ça que je parle d'une famille de modèles, au fond. Quand on dit les approches instructionnistes, je pense que ces deux-là, le Direct Instruction et le Success for All, présentent des différences, mais en même temps, je crois, participent de la même famille. Plusieurs autres méta-analyses vont aussi dans le sens d'un enseignement davantage structuré, un enseignement qu'on peut appeler explicite, que par découverte. Par exemple, le National Reading Panel allait dans ce sens-là sur le plan de la lecture. En mathématiques, la méta-analyse de Baker. En écriture, même chose, Gerstein. Pour les élèves du primaire en difficulté, pour les élèves du secondaire en difficulté, les travaux de Swanson vont dans ce sens-là. Alors, si on dit qu'un enseignement structuré semble plus associé à la réussite de l'élève, mais quelles en seraient les caractéristiques? Bon, je pense que en dépit de certains nombres peut-être de variations ou de différences dans cette famille-là, à mon sens, cela renvoie à ce que Rosenshine et Stevens en 86 appelaient leur modèle général d'enseignement efficace. Donc, au fond, c'est pas véritablement compliqué ce qui est mis de l'avant, sauf que quand on le fait pas, ou on le fait mal, ou c'est pas nécessairement associé à de bons résultats. Donc, ce que souligne Rosenshine et Stevens, c'est l'importance de la révision. C'est-à-dire, bon, maintenant, je pense que la plupart des gens s'entendent sur l'importance du rappel des connaissances antérieures. C'est-à-dire, vous avez un enseignement nouveau que vous voulez prodiguer, avant d'aborder de nouveaux contenus, il est important de réviser le travail antérieur. De même que les travaux que vous demandez, les devoirs qu'on demande aux élèves, si un enseignant les révise jamais, les revoit jamais, à ce moment-là, les élèves comprennent vite que ça vaut pas la peine de travailler, se forcer pour faire des devoirs. Mais par contre, s'ils sont réutilisés, réinvestis, cela peut être utile. La présentation, quand il y a un enseignement, une présentation qui est faite, l'enseignant peut modéliser devant les élèves. D'abord, va indiquer les buts de la leçon, peut résumer le contenu de ce qui va être vu et va présenter devant les élèves. Et souvent, comme on dit, il va « think aloud », il va penser à haute voix, il va indiquer, il va énoncer les processus par lesquels il passe quand il veut faire une opération. Il va faire devant les élèves en parlant de ce qu'il fait devant les élèves. Bon. En ce qui concerne la pratique guidée, je pense que c'est un élément qui est extrêmement fondamental, mais qui a été, qui est souvent très, très négligé. Or, c'est l'occasion par excellence pour un enseignant, lorsqu'il a expliqué quelque chose, une tâche à réaliser, de voir comment cette tâche-là est comprise et réalisée. Alors, C'est là, au moment de la pratique guidée, qu'un enseignant va aller chercher des questions, par des questions, va aller chercher la compréhension des élèves. Et là, bien évidemment, il voit si ce qu'il a dit est assez compris ou pas. Il peut réenseigner au besoin, donner une explication supplémentaire à un ou à quelques-uns. Si personne ne comprend, bon, on peut recommencer. Mais la pratique guidée, c'est-à-dire, au fond, mettre les élèves au travail, passer entre les allées, regarder comment le travail se réalise, poser des questions à des élèves et des bonnes questions de compréhension, permet d'aller chercher l'information pertinente et évite que l'erreur se cristallise dans la tête des élèves. C'est toujours plus difficile de corriger une erreur qui est installée que de l'apprendre au moment où elle émerge, et là, on peut la corriger plus efficacement. Bon, la correction et le feedback sont des éléments qui sont largement identifiés depuis un certain nombre d'années. Je ne m'attarderai pas là-dessus. En cinquième lieu, la pratique autonome. L'idée est d'arriver à une certaine fluidité dans la pratique. On est resté avec des choses assez aberrantes. En tout cas, dans le monde anglophone, ils disent « drill and kill », là, assez péjorativement. La pratique tue, mais je pense qu'il y a d'énormes vertus à la pratique et il n'y a aucune expertise qui peut être atteinte sans entraînement. On n'a qu'à voir un athlète, un musicien, quiconque veut, on pourrait dire, développer une compétence forte dans quelque chose, puisqu'on parle de compétence souvent. L'entraînement est nécessaire. Il n'y a pas de compétences qui peuvent émerger sans entraînement. Et dans le sens noble du mot entraînement, faut en faire. Alors, mentionnait Pelladeau dans son étude publiée dans la Revue des sciences de l'éducation à propos du transfert, on parle beaucoup de transfert de nos jours, mais on en parle peut-être de façon erronée. Mais il ne pourra jamais y avoir de transfert s'il n'y a pas acquisition. Et l'acquisition du simple au complexe est encore une façon très sûre d'assurer cette acquisition. Et il ne pourra pas non plus y avoir de transfert s'il n'y a pas de rétention. Et la pratique soutenue permet justement d'aller au-delà de l'acquisition, mais de retenir et d'installer les éléments, je dirais, dans la mémoire à long terme. Alors, et enfin, bon, les révisions hebdomadaires et mensuelles permettent, je dirais, de garder alerte un certain nombre de contenus de processus ou d'habiletés qui ont été vus et sur lesquels, si on ne revient pas, ben finalement, vont s'oublier. Souvent, les enseignants se décourageaient. Vous saviez tout ça au mois d'octobre, puis à l'examen de fin d'année, il n'y a plus personne qui le sait. Mais non, mais là, c'est parce qu'on n'a pas retravaillé non plus sur ces questions-là, de sorte que ça s'oublie. Alors, vous aurez, pour ceux qui sont intéressés, le texte intégral de la communication d'aujourd'hui. Alors, chacune de ces étapes-là, j'avais prévu plus long, mais là, je vois que le temps passe. Alors, je passe ces 6 étapes-là je bloque ici là-dessus. À la lumière des 6 éléments de Rosenshine, quelles seraient les faiblesses d'un enseignement traditionnel? Je pense que dans un enseignement traditionnel, les buts n'étaient pas nécessairement clairs et on ne modélisait pas nécessairement beaucoup. La pratique guidée était souvent une étape escamotée au profit de la pratique autonome. Alors, souvent, si on se rappelle un peu peut-être l'école de notre enfance, disons, pour se donner un exemple, le maître mettait beaucoup les élèves au travail expliquait, mettait les élèves au travail et on était longtemps au travail sans qu'il y ait nécessairement la pratique guidée. De sorte que, au bout du compte, quand on passe à l'évaluation, on se rend compte que les scores sont pas toujours très bons. Et évidemment, le maître ne questionne pas sa stratégie, mais plutôt, souvent de fois, est porté à mettre la faute sur les enfants. En ce qui concerne l'enseignement par découverte, bon, moi, je pense qu'il y a quand même des choses intéressantes là-dessus, au sens où, notamment en ce qui concerne la pratique guidée, il y a eu, les constructivistes ont mis l'accent sur la compréhension de l'élève. Je pense cependant que quand on examine un peu les approches par découverte, la pratique n'est pas suffisamment intense. Les pédagogies de projet, je pense, ont tendance à survoler les éléments de contenu. Ce que ça fait, ben, je crois que ça donne, somme toute, un apprentissage assez superficiel. Un défaut majeur, à mon avis, si on pense à une pédagogie de projet, ça prend du grand art, en tout cas, dans une pédagogie de projet, pour faire en sorte de bien contrôler le niveau de difficulté de la tâche. Or, on met souvent les enfants face à des tâches assez complexes et, bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui réussit dans ces contextes-là. Alors que si on avait bien contrôlé ou mieux contrôlé le niveau de difficulté de la tâche, probablement que les apprentissages se seraient davantage réalisés. Je ne suis pas contre les projets en soi. Je pense que les projets peuvent venir non pas au début, mais un peu plus tard, c'est-à-dire une fois qu'on a acquis un certain nombre de contenus nécessaires, un certain nombre d'habiletés aussi qui sont nécessaires. Mettre les élèves en projet, je pense, trop tôt, compte tenu du peu de contrôle de la difficulté de la tâche, au fond, ça produit l'échec. En ce qui concerne les écoles, sur les écoles efficaces, il y a une bonne tradition de recherche sur les écoles efficaces, mais à un moment donné, c'est comme si ces recherches-là tournaient en rond, apportaient peu d'éléments intéressants. C'est à peu près toujours les mêmes caractéristiques des écoles efficaces. Bon, Marzano en reprend, mais il n'est pas tout seul, plusieurs autres en ont mentionné. Un leadership fort de la direction d'école, des attentes élevées envers la performance des élèves, un climat ordonné et respectueux, une priorité donnée aux matières de base, puis un monitoring des progrès de l'élève. Bon, ce sont des éléments assez généraux et qui aident peu, une école qui, par exemple, serait moins performante à devenir plus performante. Je ne sais pas, moi, si le directeur d'école n'a pas de leadership, on ne pourra pas nécessairement le mettre dehors pour en embaucher un autre comme ça. Alors, c'est intéressant à connaître, mais ça nous donne peu de prise, je dirais, pour nous améliorer. Or, ce qui est arrivé un peu plus tard, ce sont les études de Ted Lee qui ont été intéressantes au sens où, au-delà de simplement examiner des caractéristiques des écoles efficaces, ils sont allés dans les classes de ces écoles efficaces-là pour voir comment ça fonctionnait en comparant des écoles qui étaient identifiées comme efficaces et d'autres peu efficaces. Et en observant les pratiques de classe, on s'est rendu compte, d'une part, que les pratiques pédagogiques des écoles reconnues efficaces sont différentes de celles des écoles dites non efficaces. Plus encore, les pratiques des écoles dites efficaces correspondent à ce qu'on pourrait appeler un enseignement structuré ou explicite ou, hein, dans cette famille-là. Autre chose fort intéressante, c'est l'étude de Reynolds et de ses collaborateurs dans le cadre du projet International School Effectiveness Research, où on comparait, c'est un gros projet dans lequel on comparait les écoles de 9 pays aussi différents que l'Australie, Taïwan, la Hollande, l'Irlande, les États-Unis, Canada, Hong Kong ou Singapour, un des deux là, était là. En tout cas, il y en avait un certain nombre. Bref, il y a quand même une palette intéressante de pays. Et eux, ce qu'ils cherchaient à voir, c'est s'il existait des facteurs universaux associés à l'efficacité de l'école, c'est-à-dire des facteurs, au fond, qui traversent les différences culturelles. Et on s'est rendu compte que les écoles efficaces de ces différents pays-là enseignaient d'une manière assez semblable. Et de façon, ce semblable-là se décline de la façon suivante, ce serait un enseignement structuré, systématique et explicite, et ça renvoie à ce qu'on a vu dans la littérature sur l'enseignement efficace. Moi, je trouve cette étude-là intéressante parce qu'en éducation, on est constamment en train de parler des contextes, puis des contextes comme s'il n'y avait rien qui pouvait passer d'un contexte à l'autre et finalement pouvait être généralisable. Mais il n'y a pas de raison que ça soit pas, qu'il n'y ait pas une forme de généralisabilité, dans le sens que, si on regarde un peu, d'une part, notre histoire de la pédagogie, la structure, elle est semblable un peu partout. On a un maître, On a, bon, un certain nombre d'élèves, là, mais c'est toujours autour d'une trentaine, mais des pays moins favorisés, il y en a plus. On a un programme à voir. La classe dure un certain nombre d'heures par jour. Ça se passe dans une classe ou dans une école. Ça dure autour d'une dizaine de mois. Bon, mais l'enseignant, c'est un adulte, bon, etc. Donc, il y a une structure semblable. Au fond, ça génère aussi des comportements qui peuvent être semblables de la part des acteurs. L'enseignant est mandaté par sa société pour instruire, apprendre à lire, etc., les élèves, et leur inculquer un certain nombre de valeurs. Les élèves, bon, certains vont être plus faciles, d'autres vont résister, etc., certains vont apprendre, d'autres moins, bon. Et c'est ça, au fond, c'est pas qu'on soit en Chine ou en Australie ou ici, sur ce plan-là, la structure, je dirais, est somme toute assez semblable. Et là, ce qui est intéressant, en tout cas, pour moi, Reynolds a été une révélation dans mon cheminement intellectuel, dans le sens que, pour une fois, quelqu'un dit, il y a quelque chose qui traverse la culture. Et là, il y aurait des façons de faire, il y a des écoles qu'on peut identifier comme performantes, dans des milieux socio-économiques semblables, faibles ou moyens. Alors là, on a des éléments extrêmement intéressants. Alors, en conclusion, nous pensons, d'après les études consultées, qu'un enseignement structuré présente plus de potentiel pour assurer la réussite de l'ensemble des élèves d'une classe. De plus, l'effet école augmente lorsque l'ensemble des pratiques d'enseignement utilisées dans les classes est structuré, systématique et explicite, et ce, particulièrement pour les milieux défavorisés. Si ce qui précède a un certain fondement, alors il convient de se demander pourquoi, dans les réformes, les approches qui donnent les moins bons résultats sont si populaires et valorisées, et pourquoi la recherche a si peu d'impact sur les décisions. J'aurais une explication possible. Les résultats de la recherche sur l'enseignement efficace ne sont ni connus ou encore ni acceptés, parce qu'ils peuvent être connus, mais ils ne sont pas acceptés des décideurs. Il y a un refus comme systématique, et je ne sais pas pourquoi ça refuse, mais à un moment donné, la force de la preuve devient forte d'un côté, puis il n'y a pas beaucoup de preuves de l'efficacité de l'autre côté. Il y a des témoignages, etc., mais on parle de recherche, là, on ne parle pas d'essai, là. Alors, je pense que, ou encore, une autre raison aussi, peut-être pourquoi ça ne marche pas, qu'on adopte les moins bonnes stratégies, c'est peut-être qu'on confond des essais et des recherches. Et on s'alimente beaucoup au Québec, mais pas seulement nous. De toute façon, c'est généralisé. Je reviens de l'Ouest, puis c'est pareil. Je pense qu'on s'alimente beaucoup en éducation d'essais, de bons penseurs, de gens brillants qui ont écrit, qui nous disent comment on devrait faire, etc. Mais on n'a pas de données empiriques. Alors, à ce moment-là, j'aime bien la phrase de Rosenstein quand il disait « Show me the data ». Montrez-nous les données. La question, ce n'est pas d'être pour ou contre une approche a priori. La question, c'est sur quelles données on prend appui, au fond, pour dire « Voici dans un système donné, c'est ça qu'on devrait privilégier ou pas ». Quelle que soit l'approche, si on a des données suffisamment robustes qui nous disent « Allons dans ce sens-là », allons-y. Mais si on n'en a pas, pourquoi irait-on? Et c'est pour moi la raison de la critique que je formule à la réforme au Québec, c'est-à-dire je pense que le changement de paradigme qui était là au départ, l'injonction qui nous était faite, n'a pas de fondement sur le plan de la recherche. On a un fondement sur le plan de l'essai, c'est-à-dire on s'est inspiré de certains penseurs européens, et ce sont des essayistes, ce sont pas des chercheurs au sens empirique du terme, à partir duquel on peut dire, ou expérimentaux du terme, à partir desquels On prend des mesures au début, à la fin, on prend des groupes contrôle, on vérifie les écarts, etc. On utilise un certain nombre d'instruments, que ce qu'ils soient quantitatifs ou quantitatifs, ou mieux les deux. Et là, ben, on finit par avoir un certain nombre, tirer un certain nombre de conclusions. Sinon, on est dans l'à peu près. Et je pense qu'on est, on est le secteur, ben, je sais pas si jamais je dis ça, puis c'est trop fort peut-être. Il y a plein de concepts qui nous arrivent comme ça et qui sont sur le marché, on pourrait appeler ça le marché des idées pédagogiques, les styles d'apprentissage, par exemple. Il m'est arrivé de tomber sur une typologie des styles d'apprentissage. Il y avait un ouvrage qui portait sur les typologies des styles d'apprentissage. Il y avait autour de 50 typologies de styles d'apprentissage. Pas 50 styles d'apprentissage, 50 typologies de styles. Allez donc vous y retrouver, au fond, il faut faire du ménage là-dedans. La même chose pour les intelligences multiples dont les travaux ont été critiqués par Ellis and Flout. Ce sont, dans le marché des idées pédagogiques, ça circule beaucoup. Alors, on pourrait parler aussi de la pédagogie différenciée, qui est un concept flou à souhait, très populaire, basé sur une intention noble. On en a plusieurs comme ça. Alors, il faut, à mon avis, avant de faire des changements radicaux, comme ceux que l'on a fait dans le cadre de nos réformes, prendre le temps de mesurer, aller dans des approches moins risquées. Il faut diminuer le risque, c'est quand même, un, l'argent des contribuables, deux, c'est le futur de nos générations.